Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. Pour ce nouvel épisode, je vous propose de rencontrer Hugo, 19 ans et demi. Je pense le plus jeune invité que j'ai eu, puisque Léo allait avoir 20 ans. Hugo a une tête de jeune homme, une voix légère, douce. Il va vous raconter son parcours et vous allez voir à un moment donné, dans son témoignage, ça va switcher. Je sais pas, enfin, vous avez lu, j'imagine, les notes du podcast, donc vous allez comprendre où nous allons aller. Mais c'est un témoignage assez incroyable, moi qui m'a laissé un peu sans voix, vous allez vous en rendre compte. À la fois, je le trouve très mature et en même temps très enfantin dans sa façon d'appréhender la sexualité. Je le trouve très doux. Et en même temps, très verrouillé sur certaines choses émotionnelles, à la fois très vulnérable et en même temps très fort, très au courant et en même temps très naïf. Enfin voilà, une dualité sur beaucoup de sujets. Je vous laisse donc avec Hugo et vous souhaite une excellente écoute. Ça va Hugo ?
Oui, ça va.
Bon, super. Hugo, est-ce que tu as écouté les épisodes ?
Oui, je les ai pas tous. Je t'avoue que je les ai pas tous écoutés. Notamment dernièrement, mais oui, bah, ça fait depuis, je crois, la saison 2 que je suis le podcast.
C'est une petite question là, que j'ai décidé de poser à mes invités maintenant qu'il y a quasiment 3 ans de podcast. Quel est l'épisode et l'invité que tu as préféré, qui t'a parlé le plus ?
Qui m'a parlé le plus, c'est un épisode, comme je t'ai dit, je n'avais pas la mémoire des prénoms. C'était quelqu'un qui habitait à Lyon et qui était d'origine... maghrébine, je sais plus. Mm-hmm. Et il m'avait vachement touchée parce que du coup, je m'étais retrouvée dans des choses qu'il avait dit. Et non, c'était très intéressant.
Hugo, je vais te poser la première question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Et je pense que c'était quand j'étais à l'école primaire. C'était c'était un après-midi après les cours, il y a le, enfin moi c'était le claé. Et du coup, il y avait avec deux trois amis, et il y avait une sorte de bac à sable. On devait être, je pense, je sais pas, en CE2, CM1, je pense, CM2 maximum. Et du coup, il y avait eu une sorte de petit défi, en fait. Enfin, quand j'y repense, c'est assez risible. Mais c'était un défi où, enfin, vraiment, il y avait un des garçons qui nous avait dit je vous montre mon zizi en échange d'un gâteau. Je t'avoue qu'en disant ça, c'est assez risible. Il avait fait refait le défi et il avait juste rajouté après, ça m'a marqué. Il avait dit mon grand frère, il m'a dit que le zizi dur, ça veut dire qu'on est amoureux. Et cette phrase, du coup, avant, j'avais pas je savais pas trop ce que ça voulait dire, tu vois. Et avec le recul, du coup, la phrase prend tout son sens et c'est assez drôle, quoi.
D'accord, donc ça, c'est ton premier souvenir. Donc, c'était avec des petits garçons que tu jouais à découvrir ton corps.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, en plus, c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que quand on est enfant, en fait, c'est souvent par les défis ou ce genre de choses, au final, qu'on...
Dans le jeu.
Ouais, c'est ça.
Très bien, donc tu es ce petit garçon, parce que là tu es jeune étudiant, donc tu es parti depuis pas si longtemps de la maison. Comment ça se passe ton éducation et le rapport à justement l'éducation sexuelle chez toi ?
Ben j'ai jamais eu de problème par rapport à ça, j'ai toujours eu des parents qui étaient assez ouverts. On m'a toujours fait après le petit speech sur l'importance d'avoir des rapports protégés, de faire attention, que le porno, c'est pas la réalité, tout ce genre de choses, quoi.
Plutôt avec ton père ou plutôt avec ta mère, ces discussions ?
C'est plutôt mon père qui s'occupait du domaine prévention, si on peut appeler ça comme ça. Mais comme j'ai toujours été plus naturellement proche de ma mère, en guillemets, après, sur ce genre de questions, c'est plus avec ma mère que j'irais naturellement discuter, quoi.
Quand tu avais des questions, tu les posais à ta maman, mais c'est plutôt ton père qui prenez l'initiative de, d'en discuter avec ses enfants?
Bah en fait, genre, je leur ai jamais posé réellement de questions.
D'accord.
Mais par exemple, pour tout ce qui est petit copain ou par exemple, si je vais voir un garçon ou autre, oui, je vais plus aller voir ma mère pour lui en parler que mon père, quoi. Oui. Bah, d'ailleurs, d'accord. quand j'ai annoncé mon homosexualité, je l'ai annoncé à ma mère et pas à mon père en premier.
Et ton père est au courant?
Oui, oui, oui. Ben, mes parents sont au courant depuis. Je crois que c'était en seconde que je leur avais annoncé, donc ça commence à remonter un peu.
D'accord. Tes parents ont quel âge?
Mes parents, ils ont un peu plus de 45 ans.
C'est intéressant de voir qu'effectivement, l'éducation des parents qui ont une quarantaine, cinquantaine aujourd'hui, a bien évolué par rapport à une éducation passée, où on ne parlait pas du tout de sexualité à la maison. Et du coup, on n'avait pas des jeunes gens aujourd'hui déconstruits, ou en tout cas en phase avec leur sexualité. Donc plutôt, effectivement, donc plutôt éduqués et plutôt des informations sur le sujet. Est-ce que tu as le souvenir, toi qui es née donc après les années 2000, est-ce que tu as des souvenirs de cours où on parle d'éducation sexuelle?
J'en ai quelques... Je pense que j'ai deux, trois interventions en tête au collège et une seule en seconde au lycée. Mais je trouve que justement sur ça, on ne nous en a pas réellement... Enfin, vraiment, il y a eu deux, trois interventions dans toute ma scolarité, mais après, pas plus que ça, quoi. C'est ça qui... Ouais, je trouve que c'est un peu dommage, quoi.
Toi qui as eu la chance d'avoir des parents plutôt ouverts et plutôt disponibles, pour tes copains qui n'avaient pas forcément cette chance, tu penses que ça a manqué dans leur construction?
Bah, c'est plus par rapport au comprendre les maladies ou les risques. En vrai, par exemple, il y a plein de questions notamment sur le virus du sida, enfin sur le VIH, où j'aurais aimé, par exemple, qu'on ait des cours, enfin, en guillemets, plus approfondis que juste une heure dans l'année, quoi. Parce qu'il y a certains clichés ou certaines, en guillemets, rumeurs ou autres qui auraient pu être déconstruites, quoi.
Moi, je suis d'une génération où les services publics mettaient beaucoup d'argent dans la prévention contre le VIH. Et c'est vrai que moi, à l'époque, quand j'étais au collège ou au lycée, bon, déjà, les préservatifs étaient gratuits, étaient donnés à l'infirmerie. Et surtout, on en parlait beaucoup. On avait pas mal de cours sur le sujet, enfin, en tout cas, de prévention. Il y avait beaucoup d'affiches dans les établissements scolaires. Et c'était vraiment un sujet très important, bien sûr dans les établissements publics, mais aussi à la télé. Il y avait, tu vois, il y avait des galas, il y avait il y avait plein de choses qui étaient organisées pour cette prévention-là. Et c'est vrai que j'ai le sentiment qu'on en parlait quand même beaucoup plus et que la jeune génération était quand même très au fait. Mais bon, il y avait plein de ratés sur d'autres trucs, donc bon, comme quoi on ne peut pas être parfait partout.
Au final, du coup, les informations que je n'ai pas eues quand j'étais... du coup au lycée ou au collège, et ben franchement il y a un endroit vraiment que je trouve super bien et je crois pas qu'il y a un des invités qui en a déjà parlé, c'est le Cégide et du coup c'est un endroit où enfin j'y vais quelques fois, du coup enfin on a répondu vraiment à toutes mes questions sur plein de maladies ou autres
C'est les centres de santé sexuelle.
Oui, c'est ça.
Tu fais écho au bonus que j'avais fait pour Aide Paris et c'est Tim qui était bénévoles, il y avait Guéric aussi, qui sont bénévoles à Aide Paris et qui effectivement officient dans les centres de santé sexuelle et reçoivent gratuitement, évidemment, les jeunes gens qui ont besoin de documentation, de préservatifs, d'informations sur la PrEP, etc.
Ouais, donc franchement, ouais, je trouve que c'est au final, c'est là où c'est vraiment bien fait, quoi.
Ah ouais, je suis d'accord avec toi. On a beaucoup de chance en France d'avoir, en tout cas, ces établissements disponibles. Donc, tu es au collège. Comment ça se passe, la puberté pour toi, Hugo?
Ben, à vrai dire, en sixième et en cinquième, il n'y a pas vraiment de... J'ai pas vraiment de souvenirs en particulier. Hormis le fait qu'en fait, il y avait un garçon qui habitait pas loin de chez moi et avec qui souvent je rentrais. Du coup, on faisait le chemin pour rentrer du collège ensemble. Et je me rappelle que bah en fait du coup c'est ma en guillemets première vraie confrontation à la sexualité. Une fois il m'avait invité pour prendre le goûter chez lui et ben là encore le jeu revient et du coup ben c'était lancé un défi à commencer à se déshabiller et c'était c'est vrai qu'au final en y repensant du coup il y a beaucoup de défis qui reviennent.
Je vois ça, tu es beaucoup dans le jeu.
Ouais, c'est ça. Au départ ça a été juste un t-shirt, puis après ça a été le pantalon et à un moment c'est venu le fait d'être tout nu et je me rappelle de cette phrase aussi où on avait dit je sais plus lequel enfin si c'était moi ou l'autre garçon qui avait dit ça mais de toute façon à la piscine dans les vestiaires pour se changer on se voit bien tout nu donc qu'est-ce que ça change et du coup ben on avait fini vraiment tout nu quoi.
Et donc là, toi, ton corps à ce moment-là est comment ? Il est encore de jeune garçon ou tu commences à être pubère ?
Jeune garçon, je pense.
Et donc, qu'est-ce qui se passe pour toi à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu ressens ? Tu t'en rappelles ?
C'est vrai que ça remonte un peu, mais il me semble qu'on a un peu, après, on s'est un peu touché, mais vraiment plus, ouais, plus découverte que réel, enfin, que réel acte sexuel. Quoi. Oui, c'était vraiment.
La découverte du corps de l'autre.
Ouais, c'est ça.
Ok, et donc quand tu commences à être pubère, comment tu vis cette transformation de ton corps ?
J'ai pas vraiment de souvenirs par rapport à ça. J'ai juste là, enfin, le fait de voir mes poils du coup commencer à pousser, notamment mes poils pubères ou autres. Mm-hmm. Et je me rappelle après les premières fois où j'ai commencé à me masturber. Mais après, j'ai pas. Je me rappelle juste que les premières fois où je me suis masturbée, ça me faisait mal.
Quand tu dis ça fait mal, c'est-à-dire que tu n'arrivais pas à trouver la bonne technique ou...
Non, ce n'était pas la technique, c'était... je me rappelle, c'est un peu... C'est le fait, je ne sais pas, c'était en fait au départ... ouais, je ne sais pas comment expliquer, au départ, en fait, ça, juste la première minute, ça faisait mal. En fait. Et après, ça faisait du bien, c'était... Et ça me l'a fait que je pense le premier mois ou un truc comme ça, et après, plus jamais.
D'accord. Et comment tu découvres la masturbation ? Donc, t'as quoi ? T'es au collège, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Je devais être, je pense, 5e, 4e. Ben, il me semble que c'était par la pornographie que je l'avais... Oui, il me semble, ouais, c'est ça. Je l'avais vu dans des vidéos, et du coup, j'avais voulu faire pareil.
Mais comment tu as accès à la pornographie ?
Je sais plus, en traînant sur internet. Il me semble que c'était en tapant des mots, mais je t'avoue que je sais plus du tout.
Genre tu tapes sexe ou des choses comme ça sur la barre de recherche.
Garçon ou je sais pas, des trucs vraiment basiques quoi.
Ça a tout de suite été les garçons pour toi, Hugo ?
Ben avec le recul, je vois qu'il y avait quand même des signes. Je pense qu'au départ j'avais quand même tendance à faire un peu suivre le mouvement, quoi, essayer de me mettre en couple avec une fille ou à dire oui, je suis amoureux de telle fille. Mais après, quand à partir de la 4e ou la 3e, on commence à fantasmer sur des garçons, ben, vient l'évidence, quoi. Puis après aussi, voilà, comme je t'avais dit, du coup, il y avait aussi le fait, le garçon qui habitait à côté de chez moi avec qui je rentrais, il y avait eu plusieurs petits jeux comme ça.
Oui, c'est ça, les petits jeux dont tu as parlé, c'est des jeux avec des petits garçons. Donc, c'est pas avec des petites filles que t'as joué au défi de se montrer tout.
Ah oui, non, pas du tout. C'était qu'avec des garçons. Ouais. Mais en fait, au départ, quand on est enfant, en fait, on s'en rend pas compte, en fait.
Bien sûr, évidemment. C'est fin du collège, quand effectivement, les hormones commencent à faire leur travail, que là, tu commences à comprendre que c'est les garçons qui t'intéressent.
Ben, je me rappelle très bien, c'était la fin de 3e, en fait. Je fantasmais vraiment ouais, sur des garçons qu'il y avait dans l'établissement ou autre. Et en fait, je me suis rendu à l'évidence. Un jour, je me suis dit, mais ouais, tu t'aimes les garçons, en fait. Et je me rappelle que ce jour-là, j'avais vraiment pleuré parce que je me suis dit, mais genre, qu'est-ce qui va se passer ensuite, quoi, genre...
Pas pleurer pourquoi ?
Ben, parce que j'assumais pas. Enfin, je me disais, mais je me vois pas. Enfin, je sais pas, genre... je pense que c'était aussi le choc, en fait. C'était le fait de réaliser quelque chose qui se construisait petit à petit. Mais il y avait un décalage entre le fait... que ça avance petit à petit et que de le réaliser d'un seul coup. Et ouais, je me rappelle très bien, j'ai vraiment pleuré et je me suis inquiétée, je me suis dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire quoi. Et j'étais j'ai...
Tu pleures pas à ce moment-là parce que tu te rends compte que socialement c'est pas une forme de, et je mets des énormes guillemets, une forme de norme, donc t'as un peu peur de pas savoir gérer ton homosexualité. Parce que tu es d'une génération où il y a quand même pas mal de représentations dans les médias, culturellement.
Ben, en fait, il y a deux choses. Il y a la première, j'ai mué très tard et même encore j'ai une voix assez aiguë. Et du coup, en fait, dès la 6e, en fait, j'étais habituée à ce qu'on me traite de pédé de voix de pédale, avant même en fait de réaliser moi-même que j'étais gay. Donc j'avais toujours eu cette image de ouais, c'était pas quelque chose de bien, même si, enfin, au fond, je savais que légalement, il n'y avait pas de soucis, tu vois.
Mais c'est vrai que c'est très compliqué de quand on est adolescent et qu'on a effectivement qu'on est homosexuel, que la première, en tout cas, le premier échange que tu as social sur le sujet commence par une insulte. C'est super dur, en fait, de le vivre comme ça. Je crois que c'est le chanteur Edith Préto qui le dit. Que les premiers échanges que tu as avec tes potes, et alors que par exemple, tu es homosexuel, ça va être effectivement des insultes, ça te pédé, et ça te ramène à quelque chose de misérable, de vulnérable, d'être en deçà d'eux. Donc c'est vrai que c'est difficile de se construire avec une image comme ça, je comprends ce que tu dis.
Ben, déjà, je pense que c'est l'insulte la plus utilisée au collège en général, utilisée de manière entre guillemets générique. Ouais, je pense que j'étais au moins une fois par jour, enfin on me faisait une réflexion et c'était l'image qu'on en a en fait, c'est pas forcément valorisant quoi.
Ah complètement, oui.
Et du coup la seconde chose aussi c'est que du coup avec mes parents par contre, même s'ils ont toujours été très ouverts, j'ai toujours été assez paradoxalement assez pudique en fait avec eux sur la sexualité ou autre. Vraiment c'est quelque chose que je suis pas du tout à l'aise c'est pas quelque chose que j'aborde de manière à l'aise avec. J'essaye toujours d'éviter un peu le sujet. Et du coup, en fait, déjà rajouter en plus l'homosexualité au fait de leur en parler, enfin, déjà que j'aime pas parler tout court de sexe avec eux.
Ouais, mais ça faisait beaucoup. Hein.
Ouais, ça faisait beaucoup, et donc, en fait, je voulais pas. Enfin, je pense que je voulais pas, en fait, assumer, entre guillemets, toutes les conséquences qui allaient en découler. En fait.
Oui, je comprends. Et donc, quand tu comprends ça, donc, t'as 14-15 ans, fin de troisième, est-ce que tu en parles à quelqu'un? Est-ce que tu te confies à un ami, une amie? Ou tu vas garder ça pour toi?
Et ben en fait, ça va venir assez rapidement parce que du coup, je vais rentrer en seconde. Et je sais pas si c'est un cliché qui est vrai ou. Mais en fait, du coup, j'ai intégré un lycée qui était plutôt artistique. Ça m'a fait un choc parce que quand je suis arrivée, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Mais les gens étaient assez ouverts sur ça. Il y avait, par exemple, je m'étais fait une amie qui était ouvertement lesbienne, etc. Et ça m'a fait un choc en fait. Et en même temps, j'avais un crush sur quelqu'un dans ma classe. Et un jour, on faisait, je sais plus comment ça s'appelle, Action, Chiche ou Vérité, il me semble que ça s'appelle. Et du coup, à un moment, était venue la question de est-ce que tu as un crush sur quelqu'un ou... Et j'avais pas voulu répondre. Et après, ça m'avait trottiné. Et en allant une fois à un cours avec une amie, justement, qui était celle qui était lesbienne, et je lui ai dit je suis gay. Et c'est la première fois en fait que j'ai dit à quelqu'un que j'étais gay. Et après, en fait, une fois que tu l'as dit à quelqu'un, c'est plus tu le dis à des personnes en fait, plus c'est facile. Et de fil en aiguille, je l'ai dit à tous mes amis, aux gens que je côtoyais assez souvent ou quand le sujet devait, était indirectement abordé. Et du coup, maintenant, ça me fait plus rien de le dire, quoi. C'est
Oui, puis j'imagine qu'en plus, si tu étais dans ce lycée un peu plus ouvert d'esprit, plus open, finalement, ton homosexualité était complètement normalisée.
Ah oui, complètement. C'était vraiment c'était presque à notre, pas entre guillemets à notre monde, mais c'était vraiment, il y avait vraiment les gens étaient plus matures. Il y avait pas de souci avec ça. Vraiment, les gens se jugeaient pas du tout. Et ça m'a fait vraiment, pour le coup, ça m'a fait du bien, en fait. Si aujourd'hui, je m'assume aussi bien et où je le vis plutôt bien, et je pense que c'est parce que aussi j'ai été, à ce moment-là où j'en avais besoin, en fait, au final, j'étais dans un endroit assez, entre guillemets, safe, quoi. C'est assez.
Et c'est en ça où, effectivement, tu as raison, pouvoir aussi s'épanouir. Dans un lieu scolaire te concernant, mais ça peut être aussi professionnel, où effectivement, comme tu dis, c'est un espace safe et tu peux être la personne que tu veux être et qui tu es vraiment, même si c'est pas, malheureusement, ça devrait pas être le cas, mais même si c'est pas toute la journée, au moins c'est dans un espace de 8h30 au début des cours jusqu'à la fin de la journée, au moins c'est déjà ça, quoi. C'est déjà ça pour être... bien avec soi-même et appréhender sa propre personne. Donc c'est intéressant, surtout à des âges de construction comme ça.
Oui, c'est ça, surtout, oui, à un moment où on se construit, où on est, en guillemets, assez vulnérable. Je trouve que j'ai de la chance, en fait.
Complètement. Donc ça, c'est ta seconde. Donc tu as tes amis. Jusqu'à maintenant, tu n'as pas eu d'échange avec des garçons sensuellement, sexuellement.
En seconde, non, j'avais jamais eu de petits copains. Enfin, j'avais pas eu de. Une fois, du coup avec encore le voisin, j'avais fait 2-3 petites choses, mais c'était pas allé au-delà des préliminaires.
Parce que c'est ça, c'est qu'en fait tu fais ton coming out alors que tu n'as pas encore eu d'expérience. Parfois, j'ai eu moi des invités où effectivement c'est l'expérience ou en tout cas c'est l'échange sexuel avec un garçon qui va motiver leur coming out. Toi, tu as souhaité t'exprimer dessus sans avoir eu encore d'expérience.
Oui, non, sans en avoir eu réellement, oui, d'expérience.
Ok. Donc tu fais ce coming out, donc tu es en seconde. Comment tu vas commencer à avoir tes premiers flirts? Comment ça va se concrétiser dans ta vie?
Du coup, c'était plutôt en fin de seconde. J'avais, par le biais d'une amie en fait, j'avais rencontré du coup un de ses amis. Et lui était aussi assez ouvertement gay ou bisexuel, je sais plus. La première fois, en fait, ça n'avait pas été réciproque. En fait, moi, j'avais plutôt laissé entendre que j'étais plutôt intéressée, mais lui non. Et quelques mois après, je sais plus pourquoi, je crois qu'on se revoit ou on se reparle. Et là, visiblement, il était intéressé. Et du coup, de fil en aiguille, on a discuté, on s'est vu, etc. Et du coup, on s'est assez mis ensemble, quoi, assez rapidement, on s'est mis ensemble, quoi.
Donc vous êtes sortis ensemble, donc ça a été ton petit ami. Et donc, premier bisou.
C'est ça, premier bisou, première fois où du coup, je me mets avec un mec et c'est plutôt concrétisé dans le sens où c'est officialisé un peu comme une relation, quoi. Et après, voilà, on touche un peu le corps, mais après, par contre, avec lui, ça ira pas plus loin, en fait, parce que je vais rester, je pense, qu'un mois et demi. Et du coup, après, je vais, le mot est peut-être un peu négatif, mais je vais enchaîner avec un autre mec où je vais mettre en couple avec lui. Et avec lui, par contre, ça va aller beaucoup plus loin, quoi. Là, il va y avoir vraiment...
Ta première fois avec lui.
Voilà, c'est ça.
Et alors, comment ça se passe déjà la première fois, donc avec ton premier petit ami, comment déjà se passe la découverte du corps de garçon? Est-ce que, même si, effectivement, avec ce premier petit ami, vous n'avez pas de rapport pénétratif, pardon. Comment ça se passe, l'appréhension du corps masculin?
En fait, j'aime les garçons. C'est sûr. Mais après, dans les pratiques ou dans comment ça se passe, je dirais qu'en fait, ça va pas à pas. En fait, on y va doucement. Il n'y a pas de mauvais, tout se passe plutôt bien. On reste vraiment dans des préliminaires. Et en fait, à cette époque, je crois qu'on n'avait même pas forcément... on n'a pas envie de faire de pénétration. Enfin, voilà, quoi, ça reste vraiment, entre guillemets, soft.
Vous prenez votre temps.
Voilà, c'est ça. Et c'est plus pour procurer du plaisir à chacun et y aller doucement. Et enfin, voilà, et ça nous convenait, en fait. Ça.
Et tu continues à consommer du porno en parallèle?
Alors non, pas du tout en fait, depuis la fin du collège, même avant je pense. En fait j'ai dû regarder du porno pendant un an, même pas. Et en fait j'avais peur que mes parents ou ma famille tombent sur l'historique. Et en fait du coup ça me stressait tellement en fait que du coup ça... Il y avait pas une sorte de culpabilité mais le stress que j'avais après avoir regardé en fait était tellement énorme que ça valait pas le coup en fait que je le fasse parce qu'après je me sentais tellement pas bien et à stresser what que du coup en fait j'ai rapidement arrêté.
C'était lourd, c'était trop stressant.
Oui, c'est ça. Et puis même après, enfin moi j'ai toujours aimé l'imagination, enfin voilà, après fantasmer sur les gens que tu vois dans la vraie vie, des gens avec qui tu peux échanger what, enfin je trouve que c'est tellement plus entre guillemets stimulant, plus... Enfin, c'est tellement mieux que de voir des... Enfin, dans le porno, en plus, je trouve, même niveau praticité, tu mets du temps à sélectionner la vidéo, à te dire, oui, lui, va me plaire ou pas. Est-ce que la vidéo va me... Après, il faut effacer l'historique ou autre. Enfin, pour moi, c'est tellement une charge mentale qu'au final, moi, je trouve l'imagination, c'est super bien. Tu peux le faire partout. T'as pas besoin d'avoir ton téléphone ou autre. Puis même, voilà ça, tu peux choisir la scène, tu peux choisir... Enfin, c'est un peu imagé, mais tu peux choisir la scène, les personnages, les pratiques, toute une histoire autour. Et maintenant, je pense, j'y vais même pas, je pense, deux ou trois fois par an, et encore, enfin, c'est... maintenant, j'y vais pratiquement plus, en fait.
Très bien. Donc, du coup, avec ce deuxième petit ami, vous décidez d'avoir vos premiers rapports sexuels.
C'est ça.
Et alors, comment ça se passe?
Je sentais assez hésitant.
Lui, c'était sa première fois aussi?
Oui. Je sentais qu'il avait plus d'hésitation que moi. Moi, j'étais quand même plus sûre. Mm-hmm. Et en fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et au final, en fait, ça s'est pas vraiment concrétisé parce que du coup, quelques temps après, au final, j'ai voulu mettre fin à la relation et en fait, on n'a pas eu le temps du coup après en guillemets, d'approfondir dans tous les sens du terme.
Pourquoi ça bloquait ? C'est-à-dire que pour lui, c'était compliqué. Tu arrives à l'expliquer maintenant avec un peu de recul ?
Ben, je sais pas, en fait, je pense qu'il avait peur, en fait. Peur, je pense, d'avoir mal ou peur de... Ça, en fait, je pense D'accord. que ça... Puis ça lui allait, en fait, juste... Enfin, ce qu'on faisait, ça lui allait. Donc, ouais. Je pense qu'il voulait rester dans sa zone de confort. Plusieurs temps après, en fait, par hasard, en plus, j'ai rencontré un ex qu'il a eu après moi. Et du coup, ben, on a discuté. Et en fait, il m'a dit qu'il a jamais... Il avait jamais sauté le pas après, enfin même après moi en fait, il a toujours voulu rester dans ça en fait.
Après chacun son rythme.
Oui ouais. Ah chacun... oui non mais c'est pas du tout une critique ouais. Hein. C'est pas.
Oui bien sûr je l'entends comme ça hein, mais c'est vrai que on peut comprendre aussi que c'est pas toujours aussi simple. Enfin c'est vrai que à ce micro il y a beaucoup d'hommes qui racontent leur sexualité et ça a l'air très fluide mais parce que c'est des gens qui ont le double de ton âge parfois, enfin plus un peu moins parfois, enfin. Mais c'est vrai que c'est des âges aussi où il faut se laisser le temps. C'est chouette de se laisser le temps.
Oui, mais totalement. Bah, de toute façon, il vaut mieux prendre son temps et être sûr de soi et faire les choses bien que faire les choses précipitamment et après avoir des regrets, quoi.
Tout à fait d'accord. Très bien. Donc, tu ne conclus pas, on va dire, avec ce jeune garçon. Enfin, en tout cas, lui, à ce moment-là, ne se sent pas prêt. Comment tu continues, toi, à rencontrer... d'autres garçons, comment les choses évoluent ?
Eh bien, en fait, après, pendant... J'ai envie de dire, c'est le désert sentimental, mais pendant... pendant plus de 2 ans, je vais pas rencontrer réellement de mecs. Il y a juste une fois avec... où je vais avoir une sorte de date, mais ça va pas se concrétiser. Et...
T'es au lycée.
Oui, c'est ça, toujours au lycée. Donc, première et terminale, pardon. Où je vais rencontrer personne. En fait. Et puis, mi-terminale, ça devait être juste avant la pandémie, c'était, je pense, décembre 2019 ou janvier 2020. Et ben là, en fait, je vais me décider à installer des applis de rencontre, du coup.
Ouh là là.
et du coup, de suite, voilà, c'est un autre monde qui s'ouvre à soi, quoi. Donc, c'est...
Tu connaissais pas du tout ?
Enfin, j'avais juste une amie qui l'avait justement installé pour elle. Puis il y avait ce côté un peu palpitant de « on va découvrir des hommes », de... Enfin, il y a un choix. Enfin, c'est quand t'es au lycée, c'est excitant. C'est genre, t'as l'impression que tu pars à l'aventure, quoi. C'est, enfin, du moins, c'est le souvenir que j'en ai, quoi. Ça a ce côté assez, le fait de braver l'interdit, mais je sais pas, le côté de nouvelles découvertes, de partir à l'aventure. Ouais, c'est assez drôle. Du coup, j'installe, cette application et je rencontre un mec qui était quand même déjà assez plus âgé que moi. Il devait avoir, je pense qu'il devait avoir 40 ans, je pense. Pour tout avouer, j'ai une préférence pour les mecs plutôt trentenaires ou 35 ans, voire même 40 ans des fois. Enfin, après, ouais. c'est juste une question de goût personnel parce que, en fait, au final, les mecs de mon âge, je sais pas, mais... Ça m'attire pratiquement pas en fait. J'aime bien le côté
physiquement.
Tant physiquement que sur le côté que mentalement en fait, sur les deux plans.
D'accord.
En fait, je pense que j'aime bien le côté où il y a entre guillemets un peu de vécu ou du moins une assurance personnelle de la personne. Ouais, ce côté pas rassurant, mais enfin ouais, peut-être même rassurant si. Mais ouais, je sais pas.
La confiance en soi, tu veux dire ?
Moi déjà, je trouve que dans une relation, même en général, c'est toujours mieux de rencontrer quelqu'un qui est déjà en confiance avec soi, qui a déjà, je trouve un peu de, en guillemets, de vécu, de, qui sait s'y prendre aussi, je veux dire, sur tous les plans, en fait. Je trouve que c'est tellement plus stimulant. Puis même, c'est quelqu'un qui, du coup, c'est des gens qui ont déjà eu des relations sexuelles, qui ont déjà eu, déjà expérimenté. Et j'aime bien me laisser guider.
Donc tu as, comment tu installes ces applis, et alors là tu commences à faire des rencontres, comment ça se passe ?
Alors du coup je fais une rencontre avec ce gars et du coup c'est là où j'ai voulu expérimenter pour la première fois du coup la pénétration en étant du coup passif et en fait ça l'a pas fait du tout parce que ça me faisait trop mal et il a même pas pu il a pas vraiment pu pratiquer quoi parce que du coup ça enfin à peine il voulait rentrer, quoi, ça me faisait trop mal.
Bien sûr. Mais il t'avait expliqué quand même comment se préparer. Est-ce que toi, tu avais un peu essayé de te renseigner sur ce sujet? Parce qu'effectivement, c'est pas facile d'arriver comme ça, direct.
Ben non, je m'étais pas renseignée. Et lui, après, avait dit... Enfin, m'avait donné quelques conseils. Enfin, il avait mis du lubrifiant, etc. Enfin, tout de ce côté-là. Mais c'est vrai que moi, je m'étais pas du tout renseignée de mon côté. Et, et du coup, ben, ça l'a pas fait du tout.
Ouais,
et ça a même un peu cassé le, ben, ça a un peu cassé la dynamique, quoi. Et au final, du coup, ben, je suis enfin, j'ai pas des regrets de l'avoir rencontré, mais si c'était à refaire, je le referais pas, quoi. C'est,
D'accord. Pourquoi tu le referais pas?
Ben, parce que, en fait, voilà, je pense, je manquais de, en guillemets, de préparation, de renseignement. Enfin, pour moi, la pénétration, c'est aussi savoir d'abord connaître son corps, parce que c'est quelque chose, ben, pour moi, enfin, tout le monde a toujours eu mal, je pense, c'est la première fois de, enfin, lors de sa première pénétration. Et en fait, faut connaître son corps, savoir comment on peut gérer la douleur, comment savoir, enfin, s'il y a une position qui fait moins mal. Ceci, cela, en fait, c'est vraiment, faut y aller pas à pas. Et je pense que c'est mieux de le faire avec quelqu'un avec qui on sera en relation, ou que le faire comme moi j'ai fait, ou du coup, je l'ai appris. Avec plein de mecs différents, en fait. À chaque fois, je voyais un mec différent et du coup, ben, il n'y avait pas vraiment de continuité ou autre. Et c'est moi qui, de mon côté, en fait, qui a un peu cherché, du coup, à savoir, enfin voilà, connaître mon corps, savoir comment est-ce que je pourrais, pour pas avoir mal, est-ce qu'il fallait que je me prépare avant, enfin voilà, quoi.
D'accord. Tu continues sur ton appli. Tu rencontres d'autres hommes.
Du coup, après ce gars-là, du coup, pendant 3 mois, je rencontre pas de gars. Parce que du coup, en plus, en même temps, il y a la pandémie qui arrive. Et du coup, bah, après confinement. Donc là, pendant le confinement, j'échange avec quelques mecs. Et du coup, bah, à la sortie du confinement, bah, je concrétise, expérimente. Et bah, petit à petit, en fait, je vais un peu plus loin à chaque fois. Je commence du coup à ce qu'il y ait une réelle pénétration. Et, mais bon, après, ça me fait toujours mal. Et pendant bien 8 mois, je pense, pendant 8 mois, 1 an, j'aurai quand même, à toujours un moment, j'aurai une douleur, quoi. J'aurai vraiment, ça sera, ouais, ça sera douloureux. Ce sera douloureux. Puis après, en plus, s'installe l'appréhension, en fait, de la douleur avant même l'acte. Et en fait, ça empire les choses, en fait. Et alors qu'en fait, justement, pour la pénétration, il faut être vraiment détendu, relax, etc. Mmh. Et du coup, avoir cette petite appréhension juste avant, à chaque fois, ben, ça complique les choses.
Oui, bien sûr.
Et en fait, le seul moyen que j'avais trouvé pour atténuer du coup la douleur, c'était en fait de me masturber en même temps. Et je savais qu'en le faisant en même temps, ça arrivait à dissiper la douleur. Et du coup, bah, après, au final, 8 mois de pratique, ben, là, j'ai commencé à réellement prendre du plaisir et à plus forcément avoir mal, quoi.
Oui, effectivement. Enfin, t'as été, on va dire, motivée, parce que c'est vrai que c'est quand même quasiment 1 an où tu as mal et tout. Ça va pas être très agréable, quoi.
Ben, en fait, tant que j'avais pas, enfin, j'étais pas allée vraiment jusqu'au bout ou autre, ben, personnellement, j'ai toujours, je me suis toujours mise dans la position de passif parce que c'est toujours, enfin, ce qui naturellement moi me correspondait. Donc je savais que voilà, il fallait que je.
Tu t'es toujours mis en position passive, jamais.
Non, ça m'a jamais attiré en fait, actif. D'accord. Et même les quelques fois où j'ai eu l'occasion où on m'a proposé, j'ai vraiment pas pris mon pied du tout. C'était. Bah d'ailleurs même les personnes qui étaient du coup en position de passif à ce moment-là, l'une d'elles m'a même dit, enfin, on sent en fait que t'es vraiment mécanique, quoi. Tu prends aucun plaisir à le faire.
D'accord. Et les garçons avec qui tu partages ces moments-là, tu leur expliques un peu où tu en es de ta vie sexuelle ou au contraire, tu la joues plutôt assurée, mec avec de l'expérience ?
Ben non, à ce moment-là, quand j'avais pas fini, je me connaissais pas totalement, non, je le disais ouvertement, enfin voilà, je débute, j'ai pas beaucoup d'expérience. Et ça, non, il y avait pas de souci là-dessus. Ben justement, après, le gars essayait du coup de, enfin voilà, de y aller doucement, etc. J'ai pas eu de fois où ça s'est mal passé à cause de ça, quoi. En général, non, c'était assez compréhensif.
T'as rencontré des gens sympas sur les applis? Enfin, en tout cas, t'as l'air d'avoir eu des expériences où les hommes étaient plutôt, effectivement, comme tu dis, plutôt sympas et plutôt compréhensifs.
Enfin, je pense que j'ai jamais fait de réelles mauvaises rencontres. Après, bien sûr, oui, j'ai toujours des déceptions ou des regrets.
C'est pourquoi, des regrets ?
Ben, parce qu'avec avec le recul, je me dis qu'au final, c'était pas... Enfin, le jeu n'en valait pas la chandelle, quoi. Enfin, c'était pas... Enfin, voilà, j'ai vu le mec et je savais que j'allais pas le revoir, quoi. C'était pas... Puis même, enfin, sur les applis, du coup, on peut vite rencontrer vraiment n'importe quel type de personne en général. Enfin, vraiment, ça peut être... Mmh. Et vraiment, enfin, on voit enfin, vraiment tout genre de personnes. Et oui, après, il y a des gens voilà, ça, avec qui ça n'a pas matché. Ou... En fait, là où je pense où j'ai le plus de regrets, c'est les quelques fois où tu arrives à la porte, tu arrives devant chez le mec et il t'ouvre la porte. Il y a un blanc pendant une seconde, il te regarde, il te dit « bah, ça ne va pas le faire, en fait ». Et ça, en fait, quand on est jeune... Enfin, quand on est jeune, ben, quand on a 17, 18 ans, ben, c'est...
Même si tu n'es pas jeune, c'est blessant. Hein.
Ben, c'est vraiment, c'est blessant. Et je me rappelle même une fois, et le mec me dit ça. Et du coup, je commence à redescendre les escaliers, en fait. Parce que c'était dans l'escalier, sa porte. Et en fait, je me casse la gueule. Et vraiment, il y avait vraiment un moment où je me casse la gueule. Il ferme la porte et je me retrouve vraiment, vraiment seul comme ça. Et c'était assez symbolique dans le sens où, ouais, voilà, ça, tu t'es un peu rejeté comme une merde, quoi. Donc,
Oh, mais ça t'est arrivé souvent ?
Non, non, non. Heureusement, ça m'est arrivé plutôt rarement, mais du coup, ça marque d'autant plus, quoi.
Oh, mais c'est super dur. Mais quel Oh là là.
Mais après, en même temps...
Très cruel.
Je leur en veux pas vraiment parce que, du coup, quand je suis dans leur situation où, enfin, voilà, tu vois la personne en vrai, que comment aborder la personne pour lui dire que ça va pas se faire sans le dire méchamment, tout en essayant de lui faire comprendre. Enfin, je...
Non, mais tu lui offres un verre d'eau, quand même.
Mais au moins, ça a le mérite d'être franc et il n'y a pas... Enfin, avec le recul, je leur en veux pas, mais c'est juste que, voilà, ça fait mal sur le moment, quoi. Le mec m'a fait comprendre que, voilà, ça n'allait pas se concrétiser, mais on a discuté un petit peu, on a bu un verre d'eau et pour garder les apparences, il m'a prétexté une autre excuse, un truc en urgence, et voilà, enfin, il n'y a pas eu de...
Voilà, oui, mais bon, au moins, c'est un peu plus chic, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement, puis voilà, ça, tu sais, toi qui fais le déplacement, enfin, ça fait toujours plaisir, enfin, voilà, il n'y a pas ce côté rejet, t'es une merde, quoi.
Ah ouais, je trouve ça hardcore, hein. Surtout comme tu dis, enfin, bon, ça blesse à tout âge, hein, mais bon, je pense qu'effectivement, à ces âges-là, quand tu te cherches un peu, tu découvres un peu ta sexualité, c'est hardcore, hein. Donc là, tu commences à multiplier les partenaires.
Oui, c'est ça. Et du coup, à ce moment-là, en fait, c'était l'été 2020, et là, je rencontre un mec qui me plaît plutôt bien, et il y a un très, très bon feeling, en fait. On se voit un soir, et puis... Et je sens en fait que le lendemain matin, en fait, en rentrant chez moi, ben, je suis amoureux. Et ça devient presque une obsession, en fait. Toute la journée, je pense à lui ou autre, et on se revoit. Et le sentiment se renforce. Et du coup, on doit se voir, ouais, au moins quatre fois. Et à un moment, je lui dis, va falloir juste qu'on mette les choses sur la table. Est-ce que toi, c'est pour du sérieux? Enfin, est-ce que toi, tu t'envisagerais du sérieux ou pas? Enfin, moi, voilà, que je me fasse pas d'illusions ou autre et que...
Oui, parce que je tombe amoureux, quoi.
Ah, mais vraiment. Et du coup, bah, c'était la première fois vraiment que je tombais réellement amoureux, en fait. C'était vraiment... Je pensais vraiment à la personne H24. C'était toute ma vie, en fait. En quelques jours, c'est devenu toute ma vie.
Qu'est-ce qu'il avait de plus que ces autres rencontres? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre intimité?
Avec le recul, je ne sais pas trop. Je sais que je me sentais en fait spéciale. Vraiment, j'avais... Mm-hmm. Enfin, j'adorais ses goûts musicaux. On échangeait sur plein de choses. Moi, ouais, je ne saurais pas définir. Il y avait vraiment un très, très bon feeling. Ouais, je pense qu'il n'y a pas quelque chose en particulier. Parce qu'on était... Enfin, après, on avait beaucoup de différences aussi. Je pense que c'est un tout, en fait. C'est vraiment un ressenti. Il n'y a pas ce truc en particulier ou telle ou telle chose qui fait que j'apprécie. En fait, je me sentais juste tellement bien avec lui. Mais c'était la première fois où vraiment je... Parce que tu vois, je t'ai dit que j'avais été en couple deux ou trois fois, enfin deux fois avant. Mais j'avais pas eu ce sentiment-là, quoi. J'avais vraiment... Là, c'est vraiment quelque chose qui te prend vraiment... Vraiment, ouais, dans les tripes, presque. C'était ma seule... Enfin, je me levais la journée, c'était mon seul objectif. C'était le voir, enfin, c'était lui, se dire, mais qu'est-ce qu'il fait ? Enfin, vraiment, c'était une obsession. C'était vraiment devenu une obsession, quoi.
Donc, tu tombes amoureux de lui ?
Oui. Et du coup, il me propose, quand je lui dis ça, il me dit ben, je t'avoue que je sais pas trop et tout. Donc, ce que je te propose de faire, c'est qu'on parte un week-end ensemble et ben, que moi, je me fasse une idée de est-ce que je me vois avec toi ou pas, est-ce que j'ai envie d'essayer d'aller plus loin, qu'on apprenne voilà, à se découvrir, parce que oui, c'est vrai que ça faisait que 4 fois qu'on s'était vu ou autre. Donc, c'était. Enfin, je comprends que ça soit prématuré. Et du coup, ben. On passe ce week-end et tout se passe super bien. Et là, en fait, le soir, le dernier soir, en fait, c'était un gros fumeur. Enfin, il fumait pas mal. Et moi, personnellement, pour des raisons personnelles, j'aime pas du tout la cigarette et je déteste l'odeur. Enfin, vraiment, je déteste quand on fume devant moi, à côté de moi, ou que je sens la cigarette. Et du coup, il s'était dit, enfin, un soir, il avait pas arrêté de fumer. Et à un moment, je lui ai fait la réflexion, j'étais fatiguée, on avait passé la journée à la plage, etc. Et je lui ai dit, mais sans réaliser que ça allait vraiment le choquer, ce que je lui ai dit, oui, enfin, t'as assez fumé, enfin, tu pourrais juste arrêter de fumer pour ce soir ou autre, mais vraiment je lui ai dit vraiment d'un ton très, très cool, enfin, sans conviction, quoi, vraiment, juste presque spontanément, quoi. Et là, gros malaise, il commence de suite à s'énerver, à me dire mais enfin occupe-toi de tes affaires, voilà, je fais ce que je veux, t'as pas à me dire ça. Et vraiment du coup ça part en engueulade et du coup ben enfin voilà la nuit complètement ratée du coup et même le matin complètement il était froid, il y avait presque un malaise ou autre, donc je rentre plutôt chez moi et tout. Et ben moi j'étais toujours amoureux en fait, et je pense que de lui, de son côté, ça, je sais pas si c'est ça qu'il a en particulier décidé, mais du coup ça a complètement ouais, il a complètement arrêté le truc et il a décidé de plus discuter et
il a mis fin à la relation.
Enfin, il y a pas de relation encore, on peut pas dire qu'il y avait une relation, mais
oui, enfin en tout cas il a cessé vos échanges.
Voilà, c'est ça. Et du coup ben j'étais vraiment, je me sentais pas bien du tout. Et je me rappelle que du coup, je lui ai dit, mais comment je peux me rattraper? Comment je peux te prouver que je t'aime vraiment? Ou enfin, ouais, qu'est-ce que je peux me montrer pour me rattraper? Et du coup, lui, il avait 28 ans, il me semble. Et il m'avait dit, si tu dis à tes parents mon âge, enfin voilà, que tu annonces que ta relation avec moi, enfin tes parents... j'estimerai que ce que tu dis, c'est vraiment du sérieux, que tu veux vraiment te projeter avec moi, et que voilà, enfin moi j'ai toujours, enfin lui il avait dit qu'il avait toujours été déçu par des gars ou autre, et que voilà, c'était une preuve comme quoi je me foutais pas de sa gueule et que je voulais vraiment m'engager. Et du coup ben je l'ai dit à ma mère, ben moi qui suis pudique, c'était assez dur mais ça allait, et c'est surtout en fait que j'ai dû le dire à mon père. Et pour moi, c'était pratiquement impossible de lui dire. Mais j'étais tellement amoureux, en fait, que j'ai réussi à le dire. Je sais, encore aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai réussi. Vraiment, j'étais désespérée. Et du coup, je lui dis à mon père. Je lui dis vraiment l'âge, en plus. Je lui dis, oui, il a presque 30 ans. Enfin, pour mes parents, en plus, je comprends très bien que ça puisse les choquer. Enfin, de se dire, oui, mon fils, il a 18 ans... et il veut se mettre avec un mec qui en a 10 de plus, enfin j'apprends ça comme ça, etc. Enfin c'est et donc bon, mes parents étaient pas très très ce que je comprends, étaient pas très très chauds pour ça,
bien sûr.
Et j'étais tellement fière de moi en fait de l'avoir dit, que en fait je suis allée j'ai pris mon vélo et je suis allée à son boulot pour lui annoncer. Vraiment, c'était un soir. Ouais. J'ai pédalé, je sais pas, il devait y avoir 6 km, 6 km et demi, je sais pas quoi. J'étais déterminée, j'étais vraiment heureux, je me sentais soulagée, presque un deuxième coming out. Et du coup, je vais le voir, enfin, j'attends qu'il prenne sa pause. Et en fait, ben là encore, grosse engueulade en fait, il avait pas du tout apprécié que je vienne sur son lieu de travail. Ce qui est compréhensible du coup avec le recul, enfin, je comprends très bien. Et
tu l'as fait très spontanément en tout cas.
Ouais, c'est ça, c'était vraiment ben en fait quelqu'un, ouais, un jeune qui apprend qui pour la première fois apprend ce que c'est réellement l'amour, etc. Et qui, enfin voilà, qui commence à, enfin, qui découvre les, enfin, ce que c'est réellement ce sentiment, ces sensations, etc. Et ben, je pense que pour le coup, il a dû, pour un psychopathe, je pense, clairement, il a vraiment très mal pris. Et du coup, ben, c'est là où il m'a annoncé direct, voilà, enfin, c'est terminé, en fait. Qui avait fait cet effort d'aller le dire à mes parents, vraiment, et pour moi, c'était vraiment une, quelque chose de, enfin, vraiment pas facile de le dire. Et ben, en fait, j'avais tout perdu en faisant cet effort, quoi. Et j'étais, et du coup, pendant une semaine, je suis tombée vraiment en dépression. Je pleurais tout le temps. Mes parents commençaient à vraiment s'inquiéter. Je pleurais vraiment tout le temps. Et en fait, au final, c'était, ouais, au bout de deux semaines, par hasard, je rencontre un gars. Et en fait, c'est en rencontrant, en fait, un autre gars que j'arrive, en fait, à me détacher. Et à, en fait, à passer à autre chose. Je pense que si j'avais pas rencontré un autre gars ou autre, je pense que j'aurais pas aussi facilement, facilement passé à autre chose, quoi. Mais, et du coup, c'est okay. Là où je me suis réellement rendu compte que c'était la première fois que j'aimais quelqu'un, parce que je m'étais jamais mis dans de tels états, j'avais jamais une obsession pour quelqu'un à ce point-là où vraiment, j'avais l'impression que ma vie tournait autour de cette personne. C'était mon centre du monde, quoi.
Oui, complètement. Et donc, ça, c'était quand ?
Ça, du coup, c'était l'été 2020.
Ouais, et depuis ?
Et alors, depuis, ben, beaucoup de changements. Parce que, du coup, ben, c'était pour ça aussi que je voulais témoigner. Parce que je l'avais entendu dans... C'est l'un des derniers épisodes où on parle de Sugar Daddy.
Sugar Daddy, bien sûr.
Et en fait, du coup, ben, quand je suis arrivée à l'université, j'avais déjà brièvement pensé en fait monnayer en échange de relations sexuelles. Parce qu'en fait, sur les applications, du coup, en même temps que je m'étais inscrite sur les applications, j'avais eu plusieurs propositions en ce sens. On m'avait déjà proposé comme ça de l'argent pour coucher avec des gars. J'avais réfléchi et par curiosité, une fois, j'avais en guillemets fait monter les enchères pour savoir jusqu'à où il était prêt à aller. Et du coup, je me suis lancée dans ça, en fait. J'ai essayé.
Et qu'est-ce que ça t'apporte ? Quelle satisfaction ça t'apporte ?
Il y a plusieurs choses. La première, je dirais que c'est la satisfaction de se dire que narcissiquement, que des gens sont prêts à payer pour te voir, pour coucher avec toi, pour profiter de toi, en fait. Enfin, je sais que c'est paradoxal parce que dans la société, on a une image très négative, très dégradante, en fait. Mais enfin, je sais pas, personnellement, en fait, je me sens, peut-être que c'est dû à un manque de confiance en soi, je sais pas ou autre, mais ça flatte. Mm-hmm. C'est tordu dit comme ça, d'autant plus que, enfin, ça, je l'ai pas dit, mais quand j'étais au collège ou notamment au lycée, les garçons regardaient plutôt les filles. Et à côté, on se sent plutôt, entre guillemets, pas dévalorisé, mais enfin, le fait de sentir qu'on plaît à quelqu'un. Là, en fait, de suite, de savoir vraiment que carrément quelqu'un est prêt à payer,
ça fait du bien.
Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, après, je me suis un peu plus renseignée. Et après, du coup, je me suis inscrite sur un site spécialisé. Et du coup, j'en ai fait un peu mon job étudiant, j'ai envie de dire.
Donc, tu te rappelles ton tout premier client ?
Oui, je m'en rappelle très bien. C'était au moment de la rentrée en première année à l'université. Et du coup, c'était pas encore quand je m'étais inscrite sur le site. Et un gars m'avait proposé, du coup, sur Grindr... de le rencontrer et on avait fait ça dans sa voiture, je m'en rappelle.
Mais il y a toujours un rapport sexuel avec tes clients ?
Pas tout le temps, non. Non, ça, mm-hmm. ça dépend. J'ai envie de dire que en majorité, oui, il y a un rapport sexuel, mais il y a des. Mais très bien, enfin, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, par exemple, je passe une nuit entière avec un mec, il s'est rien passé en fait.
Ouais.
On est allé au restaurant, on a dîné, etc. On a super bien discuté, vraiment tout super bien. On a dormi, mais pas le moindre truc. Signe sexuel ou acte ou attouchement, vraiment rire, enfin vraiment rien du tout. Je tiens quand même à rappeler, enfin voilà, c'est pas la majorité quoi. Enfin la majorité c'est plutôt quand même des relations sexuelles tarifées, je vais le dire honnêtement quoi.
Oui oui, bien sûr, bien sûr. Et comment tu choisis tes clients ?
Du coup, j'ai une annonce. C'est un site où j'ai une annonce où voilà, je mets un descriptif. Pour que les... Je vais juste faire une précision de vocabulaire. Du coup, j'appelle pas ça des clients, guillemets. J'appelle D'accord. ça des adhérents, en fait. Voilà, enfin, c'est juste pour ça. Donc, du coup, il y a des... D'accord. Je fais une sorte d'annonce où les adhérents peuvent, du coup, voir ce que je propose, etc. Et du coup, bah, après, ils viennent me contacter par... ils m'envoient un petit message. Oui, bonjour, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce que tu pourrais m'éclaircir sur certains points? Est-ce que c'est possible que tu te déplaces? Ou est-ce que... Je regarde de l'ancienneté de la personne sur le site. Parce que je sais très bien que les personnes qui ont créé un profil dans le mois où ils me contactent, je sais très bien que souvent, enfin avec le recul, je vois que c'est souvent les gens avec lesquels il y a plus de risques que voilà, ça soit une arnaque ou autre. Et du coup, voilà, après j'échange avec la personne, je vois s'il y a un feeling ou pas. Je demande assez régulièrement aussi le numéro de téléphone de la personne parce que en fait j'ai un site en fait à côté. Je rentre le numéro de téléphone de la personne et ça me dit en fait si la personne a été signalée par d'autres escortes comme quoi il y avait eu des problèmes de violence. Il me semble que le site de tête ça s'appelle Projet Jasmine il me semble. Et en fait c'est réservé que aux escortes ou autres en fait. C'est par invitation en fait que tu peux y être intégré. C'est une sorte, ouais, un peu, pas d'entraide, mais où, voilà, où chacun, si par exemple, moi, un jour, j'ai un problème avec un gars, je peux mettre son numéro de téléphone, le lieu où je l'ai rencontré, un descriptif, sa plaque d'immatriculation, de voiture. Et en fait, du coup, comme ça, au moins, s'il y a une personne qui est amenée à tomber sur cette personne, et ben si au moins elle vérifie le véhicule ou le descriptif ou surtout le numéro de téléphone, et ben ainsi que par exemple il y a eu un problème avec tel gars. Bien sûr, ça empêchera jamais, ça n'enlève pas le risque zéro,
évidemment,
mais ça permet déjà de faire un tri, quoi, de faire une barrière. Enfin, on n'est jamais assez protégé, quoi, c'est ça que je veux dire, quoi.
Enfin, tu considères ça, donc t'as dit, comme un job étudiant?
Oui, enfin clairement.
Mais pour toi, c'est quoi comme ressource de revenus? Combien d'adhérents tu rencontres? Et qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta sexualité?
Ben en fait, il y a en parallèle en fait de ça, il y a le fait que, enfin, j'ai vu quand même un certain nombre de gars et j'ai l'impression en fait que, et c'est ça aussi qui me dégoûte un peu des applis de rencontre, ben que c'est toujours la même chose en fait. C'est vraiment il y a une sorte presque de routine, quoi. C'est, tu changes de mec, mais c'est toujours, enfin voilà, plan cul, etc. Et c'est à chaque fois, souvent, quand je sortais du plan ou de ma rencontre, ben en fait je suis déçu. Il y a ce côté déception, ou peut-être, je sais pas, je suis trop exigeant, je sais pas, ou vraiment je suis déçu.
En fait, tu attends autre chose que juste le rapport.
Oui, enfin, en fait, j'ai l'impression, je pense aussi que inconsciemment, je pense que j'ai l'espoir aussi de rencontrer quelqu'un, de rencontrer quelqu'un de pas d'extraordinaire, mais je sais pas, d'intéressant, quelqu'un avec qui, enfin voilà, ça va être plus qu'un plan cul, pas forcément un petit copain, mais un sex friend, enfin des gens où tu peux partager plus aussi que simplement du cul ou quelque chose, ouais, je sais pas, plus, enfin je sais pas, vraiment quelque chose que enfin voilà, lui il a fait clairement la différence, quoi. J'ai envie de le revoir, quoi. Souvent, la plupart du temps, ben je suis assez déçu. Et puis, enfin, comme du coup je disais, j'habite c'est pas la campagne, mais ça fait du coup depuis le temps, ça doit faire 2 ans que je suis sur les applis de rencontre. Ben en fait, j'ai l'impression, entre guillemets, d'avoir fait le tour. En fait, c'est pas comme à Paris ou à Barcelone. Tous les jours, tu vois 10 000 profils différents que t'as jamais vus. Enfin, je veux dire, au bout de 3 mois, c'est quand même assez redondant. Les profils, tu retombes toujours sur les mêmes personnes à peu près. Donc, t'es déçu des rencontres que t'as faites et il n'y a pas vraiment de renouvellement. Donc, du coup, du côté, entre guillemets, plaisir, ouais, je suis déçu. Et même, ben là, rien que pour prendre concrètement, je crois que ça fait un mois, ouais, ça doit faire bien un mois que j'ai pas couché juste pour le plaisir, en fait.
Tu as jamais de rapport avec le plaisir, avec tes adhérents?
Si, ça m'est déjà arrivé. Comme moi, en plus, du coup, comme je t'avais dit, j'ai une préférence pour les mecs plutôt, entre guillemets, de 30, 40 ans, etc. C'est pas un secret que les gens qui passent par le site, enfin, mes adhérents ont pas 20 ans, quoi. Ils ont plutôt 35 et 60 ans. Donc, c'est des gens quand même qui sont déjà beaucoup plus âgés que moi. Et non, du coup, ça me gêne pas du tout qu'il y ait cette différence d'âge, dans le sens où, ben, comme j'ai naturellement une attirance plus pour les gens qui ont déjà 30, 40 ans, ouais, c'est moins gênant, quoi.
Ils te plaisent physiquement?
Non, la majorité, non. Je vais pas le cacher. Sinon, je les ferai pas payer. Mais ça m'est arrivé, je pense, une ou deux fois où j'ai vu un mec et, franchement, j'étais content parce que au final, j'ai pris clairement mon pied, quoi.
D'accord. Tu peux avoir des amants agréables.
Ah mais totalement. Enfin, il y a des. Moi, ça m'est arrivé D'accord. plein de fois où je voyais pas le temps passer, ou même, enfin, d'habitude, par exemple, en général, enfin, voilà, je tarifie à l'heure. Ben, il y a des gens où, enfin, voilà, je m'entends super bien, ben, je compte pas. Enfin, ça dépasse, c'est pas grave. Ça dépasse 2-3 heures. Enfin, voilà, tant que je m'entends bien, en fait, avec la personne. En fait, tant que j'ai pas l'impression que c'est un boulot, j'ai pas genre être à l'heure même, quoi. Si voilà, si c'est agréable, si on passe un moment agréable, etc., ben je vais pas. Si on dépasse, voilà, c'est pas grave.
Question un peu bébête, hein, mais j'imagine que tes parents ne sont pas au courant.
Oui, non. Ben je pense que même pour tous parents, je pense que ce serait compliqué d'apprendre que son enfant fait ce genre
Bien
de choses.
Sûr. Comment tu imagines, toi, l'avancée de tout ça? Est-ce que tu vas continuer à faire ce genre d'activité? Est-ce que pour toi c'est quelque chose de très voilà, c'est en ce moment, c'est parce que c'est pas financier,
c'est pas que financier, dans le sens où, enfin, par exemple, grâce à ça j'ai pu rencontrer des gens, j'ai pu avoir des opportunités, enfin, que j'aurais jamais pu avoir, enfin, ça m'a apporté bien plus que seulement de l'argent. En fait, j'ai rencontré des gens qui m'ont aidé pour, ben, là concrètement par exemple, il y a une personne qui m'a proposé, enfin voilà, pour m'aider pour mon stage, etc. Donc
d'accord, donc tu fais des rencontres.
Voilà, c'est ça. Donc oui, ça va bien au-delà du simple aspect financier. Enfin, même des fois, par exemple, ça m'est arrivé de partir en voyage quelques jours avec
un de tes adhérents.
Voilà, c'est ça, oui, complètement.
Et tu dois faire ça encore longtemps? Est-ce que tu t'es mis une deadline? Est-ce que c'est pour tes études? Est-ce que tu vas en faire un métier?
Bah, déjà, ce qui est sûr, c'est que je ferai pas ça toute ma vie, clairement, parce que c'est pas, enfin, je pense pas que, enfin, personnellement, je l'envisage pas comme un métier clairement professionnel. Je le vois plus comme un job étudiant qui me permet d'arrondir mes fins de mois, etc. Enfin, de me faire, voilà, de l'argent. C'est ça aussi qui pour moi est pratique, c'est que voilà, je suis mon propre entre guillemets patron. Enfin voilà, enfin c'est moi qui décide l'horaire. J'ai personne derrière moi. Si par exemple pendant une semaine j'ai pas envie, ben je fais pas. Voilà, là j'ai personne sur mon dos. Y a cette liberté aussi qui est assez pratique, quoi, quand on est étudiant. Voilà, pendant mes examens, je vois personne parce que voilà, je me concentre sur mes examens. Et puis pendant les vacances, ben comme j'ai plus de temps, ben je fais plus de personnes. Enfin voilà, c'est assez flexible, qui est assez pratique. Je serais pas donné un âge, mais en tout cas la chose. Je pense que, clairement, pour moi, ce qui est la limite, c'est si jamais j'ai un enfant, ou je sais que je pourrais pas avoir un enfant et continuer à faire ça. Je me vois pas, en fait. Pour moi, c'est la limite ultime. Enfin, c'est vraiment le dernier moment où je devrais arrêter si jamais je continue. C'est que je me vois pas élever un enfant, avoir un enfant et en même temps faire ça à côté, quoi. C'est vraiment, j'ai pas d'âge parce que je sais pas. Enfin, comment ma vie s'organisera plus tard.
C'est compliqué. Mais tu en as parlé à des amis?
Oui, ah oui, j'ai plusieurs amis avec qui j'en ai parlé. Et justement, bah, c'est même comme ça que j'ai trouvé ce nom d'adhérent. Je trouvais que ça faisait, enfin, ça sonnait mieux, quoi. Et du coup, non, j'en parle librement. Bah, d'autant plus que, enfin, c'est compliqué de le cacher dans le sens où, du coup, je bouge pas mal. Je peux sortir pas mal de fois. Ben du coup, au bout d'un moment, enfin, souvent, la question vient de mais comment tu finances ça, ou comment tu fais ceci, comment tu fais cela, comment t'expliques, enfin, que tu bouges autant ou autre. Ben voilà. Puis mais après, c'est ça aussi qui est un peu l'un des deux principaux dangers pour moi d'être escorte ou on peut appeler ça comme on veut. Pour moi, l'un des deux dangers principaux, c'est le fait déjà de, ben voilà, que c'est secret. La plupart du temps, c'est pas quelque chose dont on est fier de parler ou qu'on révèle à beaucoup de personnes. Et ben, ce côté secret, c'est assez nocif, dans le sens où du coup, tu te retiens, tu commences à faire attention à qu'est-ce que tu vas dire, comment tu vas justifier tel déplacement, tu vas dire que t'étais avec qui, comment tu vas justifier que t'es autant d'argent. Cela, et en fait du coup c'est vraiment une mécanique de je dois entre guillemets préméditer tout ce que je vais dire, dans le sens où voilà, je dois pas faire de de notamment ben, encore plus avec mes parents ou autres, où c'est où du coup tu caches vraiment, t'as presque une double vie en fait.
Je comprends ce que tu dis.
Et c'est ça, je trouve, qui est dommage, parce que enfin voilà, j'ai plein de moments super du coup à partager, ou même tu vois dire avec des amis, enfin voilà, tel voyage était super bien, etc. Enfin, je me suis éclatée. Et en fait, de pas pouvoir le dire, ben c'est ultra frustrant, c'est puis ouais, ça ronge en fait un peu, c'est une lourdeur en fait, c'est et puis c'est une solitude en fait, surtout c'est ouais, c'est ça, c'est une solitude. C'est ça le danger, c'est que du coup, ben le fait de si t'as pas des gens à qui te confier, si tu gardes juste ça pour toi, je sais que personnellement ça aurait été compliqué. Ouais, ouais. Ouais. Parce que c'est solitaire, ouais, c'est très solitaire en fait.
Ce qui m'étonne, ce qui revient beaucoup là quand je t'écoute parler, c'est la facilité avec laquelle tu parles d'être dans un rapport de prostitution avec des hommes, et la façon dont pour toi c'est quelque chose de très aligné avec ta sexualité aujourd'hui. Je m'interroge quoi sur la façon dont ça a l'air très simple pour toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que
je l'aborde d'un ton plutôt léger, en fait, c'est ça,
oui,
peut-être?
Oui, et puis, comme tu disais, enfin, il y a vraiment, on n'y voit absolument aucun jugement dans ma façon de te dire les choses, mais c'est vrai que tu expliquais effectivement un début de vie sexuelle, on va dire, à un âge assez lambda, avec toute une histoire assez classique, une approche de ton homosexualité, pareil, assez classique, et puis, bon, ta préférence pour les hommes un peu plus matures, mais comme je pense beaucoup aussi, parce qu'il y a cette assurance souvent que les hommes ou les femmes plus matures peuvent générer. Et puis ce glissement sur la prostitution, enfin en tout cas le sugar dating, parce qu'effectivement, contrairement à un autre invité qui avait parlé du sugar dating, donc c'était Ellie, lui avait finalement peu de rapports sexuels. Il était beaucoup dans la compagnie, lui il parlait vraiment d'homme de compagnie. Toi, tu parles quand même plus de prestations que tu fournis à tes adhérents. Donc il y a quand même voilà vraiment un rapport de service tarifé. Et je suis c'est pas ouais, j'arrive pas à trouver le mot, mais en tout cas je suis fascinée par la façon dont tu en parles avec beaucoup voilà ouais comme tu dis de légèreté et de facilité.
Déjà personnellement, je pense que j'ai une conception assez libertaire. Et assez assez libertaire, assez, enfin pour moi,
décomplexé du sexe en tout cas,
même de la vie en général. Pour moi, la D'accord. seule limite, c'est que tant que les gens sont consentants, et que pour moi la seule limite, c'est tant que tu fais de mal à personne en fait, c'est l'interdire. Après, c'est ma conception personnelle, hein. Je conviens très bien que ça puisse pas ça puisse heurter des gens, ou enfin voilà, déjà je vois pas ça dégradant, enfin personnellement je trouve pas ça dégradant, parce que j'ai aussi du coup fait notamment un job de caissier, et ben je trouvais, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais c'est plus dégradant les gens quand ils te regardent à la caisse, qui te considèrent pas, que t'es traité un peu comme une merde, qu'on s'en fout clairement de toi, qu'au final quelque chose où ben même si c'est qu'illusoire, t'as une sorte de je pense oui que c'est clairement illusoire, où t'as une forme de reconnaissance de l'autre personne, vu que comme je te disais, enfin voilà, c'est assez flatteur, et le fait enfin voilà de ben enfin voilà, je me suis jamais sentie
dégradée
ou autre, enfin voilà, la plupart des adhérents que j'ai eu étaient très respectueux, enfin, et je conviens parfaitement que ça puisse pas être du tout le cas pour d'autres personnes qui se sont prostituées ou mais moi, enfin ouais, personnellement dans mon vécu, j'ai toujours été plutôt bien respectée. Je trouve ouais que être un job étudiant de caissier, pour moi, c'est plus dégradant, dans le sens où, voilà, t'es pas reconnu. Enfin, t'es traité, oui. Enfin, moi, qui l'ai fait, t'es traité plutôt comme une merde. Et ben là, au moins, j'ai pas de boss qui me traite, enfin, voilà, qui te traite mal, ou qui te néglige ou autre. Enfin, voilà, j'ai pas de...
Est-ce que t'as eu des adhérents avec qui... que tu peux partager des anecdotes un peu spéciales ou un peu... ou voilà, qui te reviennent en tête?
Oui, ou... oui, ben j'en ai quelques-uns quand même. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est quelqu'un, un adhérent qui m'a beaucoup touché personnellement, parce que c'est quelqu'un qui est très, très solitaire, très en souffrance, qui... Enfin voilà, je connais un peu de sa vie, etc., et je pense qu'elle n'est pas facile du tout. Et en fait, où j'ai fait de la... Je sais plus comment on appelle ça. Je crois que c'est scato, je crois. Enfin, pour le dire plus concrètement, je lui ai fait manger mes excréments, quoi. Donc, c'est assez space. Faut le... Enfin, voilà, c'est pas quelque chose qu'on prépare comme ça. Ben, j'avais jamais fait ça. Et bon, après, personnellement, enfin, c'est pas du tout quelque chose qui me correspond.
Lui, c'est ça qui le fait kiffer, quoi.
En fait, c'est quelqu'un qui est beaucoup en souffrance et qui a, je pense, peu d'estime de soi, qui est vraiment en souffrance, c'est le mot. Et le fait de se dépasser dans quelque chose qui est horrible, qui est vraiment, abject, enfin, il est obligé de se préparer psychologiquement au fait de, enfin, parce que c'est fort quand même de manger les excréments de quelqu'un, c'est assez, même symboliquement, c'est assez... Bah déjà, concrètement, ça, je pense que ça doit avoir très mauvais goût, ça doit être...
J'espère que personne n'écoute ce podcast en train de manger. je suis désolée. Okay.
Donc, il y a ce côté symbolique et ce côté concret où, enfin, voilà, c'est vraiment... je pense que ça doit pas être très, très bon. Donc, c'est le fait, en fait, de se surpasser dans quelque chose qui est horrible. Et ben ça le... Je pense que c'est sa façon, à lui, d'oublier un peu la souffrance qu'il avait... Enfin, je sais que c'est bizarre dit comme ça, mais du moins c'est le ressenti que j'en ai eu, quoi. En deuxième, ça paraîtra plus soft à côté, mais du coup une fois j'ai eu un adhérent qui était ouvrier de chantier et du coup il n'y avait pas vraiment d'endroit du coup où est-ce qu'on pouvait se voir. Du coup il avait les clés du chantier. On a eu un rapport sexuel en haut d'une tour en construction.
Oh, wow.
Donc c'est assez, ça restera dans mes. Je pense que ça restera toujours...
Ouais. J'espère que tu n'avais pas le vertige.
Mais voilà, pour les anecdotes, je pense que c'est les deux plus...
T'as eu combien d'adhérents jusqu'à maintenant ?
Alors, d'adhérents, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais le nombre exact de mecs avec qui j'ai couché, tout confondu. je sais que tu faisais avant si ça rentrait dans la salle ou pas. Mais,
exactement.
Mais comme on est à distance, je ne saurais pas te dire si ça rentre ou pas. Mais de mémoire, il me semble que j'étais à 98.
Donc une petite centaine de partenaires. Ok. Et tu as commencé à être active sexuellement finalement il y a 3 ans.
Réellement active sexuellement, non, je dirais plutôt... ça va faire pratiquement 2 ans, septembre prochain.
2 ans.
Quand je suis rentrée en fait à l'université en fait, à ce moment-là.
C'est un sacré bon rendement quand même.
avec le recul, je sais que c'est pas la quand. Enfin, c'est un peu redondant ce que je vais dire, mais c'est cliché même. Mais c'est pas la quantité et c'est clairement vrai. C'est pas la quantité qui fait vaut mieux voir peu de personnes et en.
Ah, je suis d'accord.
Avec la qualité.
C'est ça que je suis en train de dire. C'est en 2 ans de vie active, tu as quasiment 100 partenaires.
Après, vu que du coup, j'ai des adhérents, ça va vite, quoi. Ouais. Et puis, si après à côté, je voyais des mecs pour le plaisir, enfin avant du coup plus maintenant, mais ça pouvait vite monter dans la semaine où je pouvais voir je sais pas mais bien 3 mecs dans la semaine, donc après ça monte vite quoi.
Comment tu vois les choses évoluer? Est-ce que, alors tu disais qu'effectivement tu arrêterais du moment où tu aurais des enfants, donc j'imagine que tu as envie de construire une famille avec un conjoint.
C'est compliqué cette question, c'est un peu compliqué parce que déjà je sais pas si clairement je vais avoir d'enfants ou pas, parce que ça demande, c'est un engagement sur sur 20 ans guillemets.
C'est plus que 20 ans, c'est à vie. Donc
oui, c'est enfin sur le reste de
bon, après en même temps t'as même pas 20 ans, donc est-ce que cette question vraiment résonne, enfin
j'ai beaucoup réfléchi parce que enfin forcément on se projette ou on est amené à en discuter avec des amis ou voilà quoi, et c'est assez compliqué parce qu'en fait je sais pas si je trouve, enfin si je, pour construire ma vie plus tard j'aimerais le construire avec quelqu'un, mais je sais pas si j'aimerais être amoureuse de cette personne, dans le sens où en fait en parallèle j'ai rencontré un autre garçon avec qui en fait qui a mon âge, qui est pour le coup complètement mon âge, qui a je pense quelques mois de différence quoi, juste, et avec qui enfin je m'entends très bien, etc., où j'ai eu des 2-3 relations sexuelles, mais ça s'est vite transformé en fait en un amour pas platonique, peut-être pas platonique, mais en une relation vraiment spéciale, et je me projette plus en couple avec une personne pas forcément en fait avoir de sexe, mais en fait construire quelque chose de stable avec une personne. Et c'est là aussi où du coup quand je disais que j'avais une notion conception assez libertaire de la vie en général, c'est que pour moi la sexualité et les relations doivent être séparées. Et c'est compliqué à définir comme ça, mais...
Mais il y a un invité qui s'appelle Gilles, qui a une quarantaine d'années, qui est en couple avec un homme, et eux, ils ont... Alors, j'aime bien comment il le raconte. Il explique qu'il il sous-traite la sexualité. Donc, ils sont un couple, ils sont amoureux. Ça fait très longtemps qu'ils sont ensemble. Hein, et il y a vraiment ça entre eux où en fait, il n'y a plus de sexualité. Mais par contre, ils ont des amants. Alors, ils ont fréquenté des clubs libertins. Ils ont fait du BDSM... à un niveau assez extrême, notamment pour Gilles. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que voilà, ils ont de leur vie sexuelle qui est en dehors du couple, et leur couple est très solide. Donc c'est vraiment comme ça, eux, qu'ils ont réussi à trouver leur équilibre.
Mais moi, il y a une petite différence dans le sens où, en fait, dès le départ, j'envisage pas de me mettre avec quelqu'un que, entre guillemets, que j'aime. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, enfin, et c'est le sentiment, je sais pas, de tout ce que j'ai vu, de tous les mecs que j'ai pu rencontrer, etc., que ça va être compliqué en fait de construire quelque chose avec un mec avec qui on est réellement amoureux ou autre. Enfin, je sais pas, c'est mon impression après personnelle, mais j'arrive pas à me projeter avec un mec ou que j'aime, avec qui j'aurai une relation sexuelle ou autre. Et en fait, je vois plus comme vivre avec une sorte d'ami entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. Avec qui, enfin voilà, je partagerai, je construirai tout, et pour moi ce sera fidélité absolue dans le sens où voilà, s'il aura toujours besoin de moi, je serai toujours là, et si j'aurai toujours besoin de lui, il sera toujours là. Mais en fait, pour moi, la fidélité se pense plus en termes d'amitié, et après, chacun va voir de son côté s'il a envie de sexe ou pas. Mais du coup, avec ce garçon, c'est comme ça que je l'envisage. Enfin, on a vraiment les mêmes conceptions de la vie, Enfin voilà, on s'entend super bien, et je me vois plus construire ma vie avec lui. Pour moi, la stabilité en fait doit prioriser. Enfin, si je dois me passer en fait de pas construire ma vie avec quelqu'un dont je suis amoureux, enfin de juste des fois coucher par-ci par-là, mais une même personne et qui ait cette stabilité en fait, ben pour moi ça prime en fait. Le fait d'être amoureux ne compte pas en soi, parce qu'en fait je pense que j'étais tellement déçue de certains mecs, de...
Oui, après, ça fait un peu vieille dame de te dire ça, mais tu as le temps de voir les choses. Hugo, on va bientôt, ça va faire un petit bout de temps qu'on enregistre. Est-ce que tu penses que tu as dit ce que tu avais à dire? Et si tu as fait le tour, quel sera le mot de la fin?
Alors, il y avait une chose, du coup, que j'ai pas pu dire, je pense. Ouais. C'était la seconde raison pour laquelle... pour moi, les deux choses qui sont le plus dangereuses dans le fait d'être escorte, enfin de faire ce que je fais, quoi, c'est que on sait quand on met un pied dedans, mais on sait pas quand on en sort, en fait. Dans le sens où c'est, pour moi, ce qui est le plus vicieux, c'est que du coup, on s'habitue à un certain confort de vie, à un certain rythme de vie, à un certain style de vie, et ce confort que ça t'apporte, voilà. Au final, c'est ça qui je pense, qui serait le plus difficile de se priver si j'arrêtais, en fait. Et c'est ça, pour moi, en y réfléchissant, parce que j'y ai déjà réfléchi clairement, c'est ça qui, aujourd'hui, me fait hésiter, ou enfin qui pour l'instant fait que j'ai pas arrêté, en fait. Et c'est ça qui, pour moi, je préfère prévenir les gens avant que, si jamais ces personnes-là pensent à essayer ou à se lancer dedans, c'est d'abord de réfléchir que, voilà, je le dis, c'est un peu comme une cigarette, c'est-à-dire que on sait quand on commence, mais on sait jamais quand on arrête. Est-ce qu'une fois qu'on l'a acquis, on est prêt à s'en priver?
C'est super que tu préviennes et que tu attires le warning dessus, c'est très très important.
En dehors du fait que, voilà, il y a des risques de se faire agresser, tous les risques classiques qu'on associe à la prostitution ou à l'escorting, c'est pour moi le risque le plus vicieux, parce que c'est ce dont on parle le moins et qui est le plus insidieux et qui fait réfléchir à deux fois. C'est que ouais, c'est un confort et c'est ça réellement qui peut t'empêcher de, si tu veux arrêter, de continuer.
Ok, très bien. Je comprends. Quel sera le mot de la fin, Hugo ?
Un mot de la fin, j'en ai pas vraiment eu.
Que tu as envie de dire aux auditeurs, auditrices, ou même que tu as envie de te souhaiter, est-ce que, enfin voilà, quelque chose que tu as peut-être envie de te dire aussi, Hugo, de demain, qui est dans 5 ans, 10 ans.
Ben, je pense que j'aimerais me dire que, enfin, je veux surtout pas avoir de regrets en fait dans tout ce que j'ai fait. Je pense, enfin, je veux vivre ma vie à fond entre guillemets. Je veux pas me dire. Surtout ce que je veux pas, surtout, c'est arriver à la retraite. Je sais que c'est dans longtemps. Arriver à la retraite et me dire oui, j'aurais dû faire ça. Oui, j'aurais dû ceci. Oui, j'aurais dû. Pour moi, c'est ça la pire chose que je pourrais me dire, c'est d'avoir un regret, de me dire de pas avoir fait telle chose, de pas avoir d'avoir loupé certaines choses ou autre. C'est ça que je redoute le plus en fait. C'est vraiment, je veux que quand j'ai que avant de mourir, je puisse me dire eh ben t'as vécu une belle vie, t'as profité. Je pense que ça résume assez bien parce que c'est assez général et en même temps ça peut permettre de comprendre chaque action, d'avoir un raisonnement d'un raisonnement de vie en fait.
Merci Hugo.
merci à toi.
Merci pour votre écoute et merci à Hugo pour sa confiance, son sourire, sa gentillesse. L'épisode, Hugo m'a remercié d'avoir créé ce podcast. Il a commencé à écouter ce podcast, il avait 17 ans, aujourd'hui 19. Ça me fait quelque chose quand il m'a dit ça. Voilà, je serais très curieuse de savoir comment vous avez reçu et accueilli ce podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui m'écoutent, enfin, en tout cas des gens qui sont en âge d'être les parents de Hugo. Peut-être que vous avez des enfants de cet âge-là. Je suis assez. À la fois, c'est un homme qui m'a parlé, en même temps, ça reste un jeune homme. Donc c'est particulier la posture de la réception de ce témoignage. En tout cas, merci pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.